Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est pour moi une grande joie et un honneur de recevoir le professeur François-Xavier Lebas, pneumologue, cancérologue au Mans. Il est également vice-président de l'organisation franco-cambodgienne de pneumologie, l'OFCP. C'est à ce titre que je le reçois aujourd'hui. Je dois dire que parler avec le professeur Lebas est absolument merveilleux. Un médecin qui part au Cambodge soigner des malades, mais aussi former des pneumologues, et ceci avec un tel enthousiasme, un tel bonheur, que je suis heureuse qu'il ait accepté mon invitation. Professeur François-Xavier Lebas, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, d'abord, pourquoi, comment vous est venue l'idée de faire des études de pneumologie?
Alors, il faut remonter d'abord les études de médecine. J'ai une famille médicale, mes grands-pères étaient médecins, mon père est médecin, mes oncles sont tous médecins,
oui.
Mes cousins sont presque tous médecins aussi. Une réunion de famille, nous étions, il y a une vingtaine d'années, 45 médecins à cette réunion de famille.
Alors, on peut être bien soigné.
Depuis l'âge de 10 ans, j'ai pas quitté l'idée d'être un jour médecin moi-même. Et puis je suis parti à Paris faire mes études avec externat puis l'internat. Et durant l'externat, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui est le professeur Jacques Chrétien,
oui.
Et qui est pneumologue. C'était un des pneumologues les plus en vue sûrement en Europe, hein, et en France sans aucun doute, et
ah,
en Europe
oui.
aussi. C'est un grand, grand bonhomme.
Redites-nous son nom.
Jacques Chrétien.
Oui.
Et Jacques Chrétien était à la ENEC, un petit peu la Mecque de la pneumologie en France. Et je l'ai suivi et j'ai été passionné par son charisme extraordinaire, cette connaissance et puis l'amour du poumon qu'il
ouais.
pouvait avoir. Et j'ai décidé de faire de la pneumologie.
Donc, des études qui ont duré combien de temps?
15 ans.
15
Allez,
ans.
Bac plus 15.
Bac plus
en gros.
15. Oui.
Voilà, fin de mon clinica avant de m'installer au Mans, c'est de prendre le service de pneumologie du Mans. Eh ben, j'ai passé 15 ans à Paris. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez travaillé au Mans et vous avez vu que la tuberculose réapparaissait.
Alors, c'est pas tout à fait. C'est plutôt récent. L'histoire est que dans les années 65-70, on a un peu oublié la tuberculose parce que les traitements très efficaces sont apparus. Et puis, en immunologie, on a commencé à trouver des maladies nouvelles, la maladie du poumon de Fermier, par exemple, ou d'autres encore, et on a abandonné la tuberculose.
C'est quoi cette tuberculose, maladie?
La maladie du poumon de Fermier, ce sont
oui.
des maladies dues à des germes qui entraînent une anomalie immunitaire au niveau du poumon. La tuberculose est une maladie infectieuse due au bacille de Koch,
oui.
bien connue. Mais la tuberculose ayant diminué, étant bien traitée maintenant, enfin traitée correctement par les traitements modernes, on l'a abandonnée et on s'est intéressé beaucoup plus à ces autres maladies et aussi au cancer du poumon à cause du tabagisme. Et puis alors, laissant tomber la tuberculose, on s'est rendu compte qu'eh bien, elle n'a pas disparu, qu'il y avait quand même toujours une certaine quantité de tuberculose annuelle en France, et puis que dans le monde, elle existait toujours, c'est quand même la maladie infectieuse qui tue le plus dans le monde actuellement. Et
oui, malgré la vaccination.
Alors, malgré la vaccination, mais vous savez, la vaccination contre la tuberculose, qui s'appelle le BCG,
oui.
protège à peu près à 50% simplement contre la maladie.
Ah oui.
Ça protège, c'est intéressant plus chez l'enfant parce que ça protège de deux maladies très graves chez l'enfant qui sont la méningite tuberculeuse et la miliaire tuberculeuse. La miliaire tuberculeuse, c'est une atteinte du tissu pulmonaire qui peut entraîner une asphyxie très rapidement. Ces deux maladies graves sont protégées à 80% chez l'enfant par le BCG. Et
vous encouragez le vaccin?
Bien sûr que oui. Ceci dit, actuellement, le BCG n'est plus obligatoire en France parce qu'on s'est rendu compte que le nombre de tuberculose et le risque de tuberculose grave était très faible, en dessous d'un certain seuil déterminé par l'OMS, et donc il n'y avait plus l'obligation. Mais on conserve une très importante indication, j'allais dire une préconisation de cette vaccination dans toutes les catégories sociales et professionnelles, à risque donc les gens plutôt dans les catégories pauvres.
Oui, c'est ça. Mais un enfant qui est allaité, dont les parents ont du temps, ce n'est pas vraiment primordial.
Voilà, tout à fait.
Très bien.
Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner complètement.
Non. Alors, j'en viens à parler de votre organisation franco-cambodgienne, l'OFCP. Comment s'est créée cette association? Pourquoi? Et parlez-nous de ce professeur qui en est le président, le professeur Lair.
Alors, Pierre Lair est un médecin militaire, il est médecin, médecin général, c'est un professeur des universités militaires, et il est envoyé en mission en 1992 à Phnom Penh par le ministère des Affaires étrangères pour remonter d'une part la faculté de médecine et d'autre part certains hôpitaux qui étaient vraiment dans un délabrement total. Il était envoyé pour 2 ans, il n'a eu le financement du ministère que pendant 1 an et donc il a jugé extrêmement important de créer cette association pour qu'on puisse prendre le relais bénévolement pour continuer l'activité qu'il avait.
Alors, c'est donc au Cambodge que la situation est dramatique. Vous êtes allé plusieurs fois au Cambodge, combien de fois ?
J'ai dû faire 25 missions, je crois, maintenant.
25 missions. Et combien d'heures d'avion, quand même, pour que nos...
Oh, ce puits, environ 10 heures pour aller à Bangkok, et puis ensuite, on a 2 à 3 heures d'attente, puis ensuite, 1 heure pour aller jusqu'à Phnom Penh. Les premiers voyages, j'ai eu une fois à peu près 12 heures d'attente à l'aéroport de Bangkok, parce qu'il n'y avait pas de communication, de correspondance immédiate.
Oui, alors... On en vient au sujet. Pourquoi êtes-vous allé à Phnom Penh ? N'oublions pas ce drame, ce massacre. Alors, ce serait bien que vous nous en parliez.
Voilà. Il faut revenir un peu sur le sujet. Je rappelle simplement que bon, le Cambodge est un pays où il y avait des difficultés politiques très importantes. Il y a eu l'intervention des Vietnamiens qui ont un peu envahi le Cambodge, des Américains contre le Vietnam. Il y avait le protectorat français. Tout ça fait une espèce de melting pot qui fait que un certain nombre de Cambodgiens, de Khmer, ont eu envie de refaire un pays complètement à zéro. Ce sont les grands fondateurs des Khmer Rouges, dont le principal est Pol Pot. Son nom vrai, c'est... J'ai oublié son nom vrai, mais ça va me revenir, donc on va revenir. Il y avait Khieu Samphan et puis Nom Chia. C'étaient les 3 frères, frère numéro 1, frère numéro 2, frère numéro 3, qui sont venus d'ailleurs en France faire des études dans les années 50, naturellement très très liés au Parti communiste français et aux autres partis communistes européens. Et quand ils sont venus en France, c'est plus pour étudier la Révolution française que pour étudier l'organisation du système communiste. L'horreur. Et ils ont eu envie de faire une véritable révolution chez eux. Le nom me revient, c'est...
Ce sera pour tout à l'heure.
Oh, oui, ce sera bon pour tout à l'heure. Salot Sar, ah. Pol Pot. Oui, c'est son nom de...
Comment, redites-le.
Salot Sar.
S-A ?
S-A-R.
S-A-R, très bien.
Voilà, donc... Eux ont monté leur système et puis des années 60 aux années 75, ils ont monté une armée de libération du Cambodge, l'armée des Khmers Rouges. Et dans les années, le 17 avril 1975, ils ont envahi Phnom Penh, ils ont vidé toute la population sans exception, avec l'argument « si pour vivre, vous ne vivrez que de ce que vous avez produit ». Donc on les envoyait à la campagne, dans les rizières, pour cultiver le riz. Voilà, et d'autre part, et surtout dramatiquement, tous les intellectuels, c'est-à-dire qu'ils portaient une paire de lunettes, ils avaient une alliance, une boucle d'oreille, ils parlaient un mot de français, un mot d'anglais et autres, étaient tués systématiquement. Et sur 8 millions d'habitants à l'époque, il y a eu 2 millions de morts, 2 millions d'intellectuels. Et c'est là qu'on peut dire que sur le nombre de médecins, qui était à peu près de 500 médecins au Cambodge à l'époque, formés par les Français, une très bonne médecine d'ailleurs, 50 simplement ont réchappé. Et ceux qui en ont réchappé étaient dans un état intellectuel épouvantable, étaient dans l'incapacité de remonter une faculté de médecine.
Oui, et vous, quand vous arrivez, donc il n'y a presque plus de médecins.
Il n'y a plus de médecins.
Il n'y a plus de
médecins. Pratiquement plus de médecins. Et
plus d'hôpitaux.
Alors, les hôpitaux, j'ai un souvenir du premier hôpital dans lequel je suis allé en 93, c'était le Sénat. Sénat, c'était le centre antituberculeux de Phnom Penh. C'était des pavillons en bois, pratiquement. Il y avait 4 pavillons. Un pavillon pour la médecine en général. Un deuxième pour les tuberculeux qui crachaient du béca. Un troisième pavillon, c'est ceux qui crachaient du sang, mais on n'avait pas trouvé de béca. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et un quatrième pavillon qui était pour les très très contagieux. Quand on rentrait dans ces pavillons, c'était un lit en ferraille, et encore, toute la famille était présente. Elle faisait naturellement la nourriture de ces gens au pied du lit. Elles avaient leur riz, leur petit bouilloire, etc. Et puis des conditions absolument inimaginables d'hygiène, de confort et autres. Et c'est là qu'on a commencé à faire vraiment le compagnonnage.
Oui, et c'est à ce moment-là que vous voyez que la tuberculose réapparaît.
Ça, on le savait, parce que, en fait, on connaissait bien cette pathologie des pays en développement ou des pays pauvres, hein, très pauvres, et on savait que l'incidence de la tuberculose était très importante, 10 fois celle des pays en développement. Ah oui, 10 à 15 fois, même plus. Ah, oui. Et le Cambodge fait partie des pays les plus pauvres au monde, et c'est lui qui était l'un des pays les plus touchés par la tuberculose.
Alors, justement, c'est à ce moment-là que votre association va entrer... C'est exercer ce qu'elle peut, à savoir envoyer des chirurgiens, des médecins.
Alors, pas tout de suite des chirurgiens. Non. C'est un petit peu plus compliqué. Mais au plan médical, effectivement, Pierre Lair a constaté qu'il y avait un besoin énorme de plusieurs choses. Tout d'abord, d'enseigner les futurs enseignants, c'est-à-dire les médecins déjà formés, les enseigner à la pneumologie et à la tuberculose en particulier. Ça, c'est un point important parce que la chirurgie, on peut en parler plus tard, c'est déjà beaucoup plus technique. Et ça demande déjà une certaine connaissance de la médecine de base.
Oui, parce qu'il n'avait pas cette connaissance.
Ah, il n'avait rien, il n'avait plus rien. Moi, j'ai un des premiers cours que j'ai fait à la faculté de médecine de Phnom Penh. On m'a remis c'était en 93. On m'a remis des polycopiés de la médecine qui dataient de 20 ans.
Complètement dépassés.
Alors, quand on voit la vitesse de progression de la médecine maintenant, ce qu'il faisait, c'est absolument épouvantable.
Ah oui.
C'était très très mauvais, donc il a fallu reprendre tout à zéro.
Et alors quand les médecins vous ont vu arriver, vous étiez les sauveurs?
Oui, pour certains, il y en a d'autres qui s'étaient parfaitement adaptés aux circonstances, qui faisaient de la médecine plus ou moins correcte, plutôt
tranquille.
Moins correcte que plus, et puis financièrement, ils se servaient bien. Puis quand même, un certain nombre de médecins qui étaient très passionnés, qui sont nos grands amis, qui ont été formés chez nous, pour beaucoup en France, et qui ont démarré la nouvelle médecine au Cambodge.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec le professeur Lebas, qui a expliqué dans une première partie son rôle, ses études d'abord, et son rôle à Phnom Penh. Alors, professeur François Lebas, j'aimerais bien maintenant que vous expliquiez comment vous avez dû faire avec les maladies que vous avez trouvées. Et je pense tout d'abord peut-être à la tuberculose, parce que c'était une maladie qui sévissait vraiment à Phnom Penh.
Il faut rappeler que dans les pays dits pauvres ou en développement, ce sont les maladies respiratoires qui prédominent largement. Dans ces maladies respiratoires qui prédominent, la maladie des pauvres, il y a la tuberculose. Il y a le sida, et le sida qui entraîne, hélas, beaucoup d'atteintes respiratoires secondaires, qu'on appelle les atteintes respiratoires opportunistes. Et puis, toutes les pathologies infectieuses, comme les pneumonies, notamment chez l'enfant, pneumonies qui sont graves. Et puis, en dernier point, avec actuellement le déversement du tabac des pays producteurs occidentaux, des déversements de ce tabac plus ou moins frelaté, arrivent les maladies secondaires au tabac. Oui, bronchite chronique, les asthmes, etc., mais surtout le cancer du poumon qui apparaît. Avec un grand problème, c'est que les premiers symptômes de la tuberculose et du cancer du poumon sont les mêmes. Et que pour différencier, il faut des examens complémentaires, basiques certes, mais qui nécessitent un matériel et une certaine expertise.
Oui. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par la tuberculose.
Alors, la tuberculose, c'est la maladie infectieuse la plus courante, la plus connue dans tous ces pays en développement. C'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. C'est une maladie qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut entraîner la mort dans 50% des cas, mais sinon des séquelles très importantes. Et surtout, le fait qu'un patient ait fait une tuberculose, lui-même, s'il n'est pas guéri, va transmettre la tuberculose aux autres personnes. Donc, il faut absolument arriver à faire, un, le diagnostic de la maladie pour traiter le patient, et deux, pour empêcher la contagiosité de ce même patient.
Alors, par exemple, quand une mère arrive avec son bébé, là, vous pensez qu'il y a tuberculose. Mais il peut y avoir aussi le beriberi, c'est ça?
C'est ça. Mais là, c'est déjà plus particulier. Le beriberi, c'est une maladie qui est due à une hypovitaminose 1, et qui est dû au fait que les personnes mangeaient du riz, le grain de riz seul, sans manger le pourtour où se trouve la vitamine. C'est plus un problème de médecine générale, j'allais dire, que de pneumologie.
Oui.
Donc c'est moins dans le cadre de la tuberculose. Ça fait partie des maladies des enfants, des maladies de pédiatrie, mais moins dans le contexte de la pneumologie.
Oui, mais il s'avère que la mère transmettait la maladie. Ben,
c'est-à-dire que c'est la mère qui avait l'hypovitaminose.
C'est ça.
Et l'enfant qui est naturellement nourri au lait maternel ne récupère pas cette vitamine. Il suffit de traiter par les vitamines, faire un apport vitaminique, et dans ces conditions, on traite la maladie. Et on commence par traiter la mère, comme ça on est sûr que l'enfant pourra prendre ses vitamines.
Donc il fallait traiter la mère et l'enfant, en quelque sorte. Alors, justement, la tuberculose va faire des ravages affreux.
Alors, ça a fait des ravages affreux, mais heureusement, on a fait des progrès. Justement, si notre présence était là-bas, c'était pour faire ce genre de progrès. D'un, dans le diagnostic, deux, dans la prise en charge, et trois, dans le traitement médicamenteux.
Alors, revenons au diagnostic.
Alors, la tuberculose, c'est une maladie qui fait des gros trous dans les poumons, et le premier symptôme de cette maladie, c'est le crachement de sang, l'hémoptysie. Alors, naturellement, il y a les autres symptômes très classiques qui sont la fatigue, la perte d'appétit, mais dans un contexte des pays pauvres, c'est pas des symptômes qui dirigent vraiment vers un diagnostic précis. Le diagnostic est vraiment fait par, l'orientation diagnostique est faite surtout par l'hémoptysie, par le crachement de sang. Quand un sujet crache du sang, eh bien, on dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est une tuberculose. Qu'est-ce qu'on fait? On recherche le BK, le bacille de Koch. Si on le trouve, c'est une tuberculose, on traite, on est tranquille, on va le guérir, on est bien. Si on le trouve pas, on dit, ah, ça peut être une tuberculose à bacille négatif, à BK négatif. Dans ces conditions, on va le considérer comme comme BK négatif, mais on va le traiter quand même. Si c'est une autre maladie, on va traiter pour rien du 3 mois, 6 mois, avec le coût médicamenteux, les problèmes secondaires ou thérapeutiques, ce qui n'est pas une très bonne solution. Alors on a la radio, bien sûr, mais la radio, c'est encore un poème là-bas, c'est épouvantable. On a des radios, c'est une galère pour en obtenir une. Ensuite, pour sécher ces radios, on n'a même pas de négatoscope pour les lire.
Ah là là.
Et puis, il y a tellement d'autres pathologies qui peuvent nous tromper dans les images que... Elle est utile dans, je peux pas vous dire précisément, peut-être dans 10% des cas où on sait que ce sont des signes caractéristiques de tuberculose, mais dans d'autres cas, ça peut être n'importe quelle autre maladie. Donc toujours la même chose, Le sujet a craché du sang, il est fatigué, on va traiter jusqu'à voir si ça marche ou si ça ne marche pas.
Oui, parce que moi j'imaginais que quand vous aviez un cliché, vous pouviez tout de suite dire, voilà, c'est ça, c'est pas ça. Et en fait, d'après ce que vous me disiez l'autre fois, eh bien, c'est pas du tout facile.
Ah non, c'est pas facile du tout. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui donnent des symptômes radiologiques, des signes radiologiques qui se ressemblent. Et notamment dans ces pays, avec une gaverne, ça peut être d'autres maladies infectieuses. Donc, le point important, c'est d'être très bien équipé au point de vue laboratoire pour rechercher le BK dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'au Cambodge, nous, on a participé, mais les biologistes ont participé à l'élaboration de protocoles très précis pour arriver à être très performants dans cette recherche de BK. Mais de temps en temps, on n'a pas de BK, alors que c'est une tuberculose vraisemblable. Mmh. Et donc, il faut aller plus loin pour faire un diagnostic. Et c'est là qu'on a eu un gros problème. Problème. Allez. Un problème avec le représentant de l'OMS, qui est un Français qu'on aime beaucoup, d'ailleurs, qui est un type très bien, mais il a dit, oh là là, vous apportez quoi ? On apportait le fibroscope. Fibroscope, c'est l'endoscope, c'est-à-dire un petit appareil qu'on va glisser dans les bronches et qui vont permettre de voir directement s'il y a ou non une autre pathologie de la tuberculose, en particulier le cancer. Le cancer, ça donne des signes endoscopiques très caractéristiques, un petit champignon, on fait des biopsies, on prélève, on envoie au laboratoire. Ce sont des difficultés dont on pourra parler, mais au moins, on sait que déjà, à la vue, c'est plutôt un cancer qu'une tuberculose. Ça permet de différencier. Et nous, on avait apporté des fibroscopes, on en a apporté plusieurs fibroscopes d'ailleurs dans nos missions, et notre sympathique ami de l'OMS avait dit « Mais non, contentez-vous de la radio et du BK. C'est comme ça que dans les pays pauvres, il faut avancer. » Et on s'est battu et on a gagné puisqu'on a apporté des fibroscopes. On a formé des médecins à faire des fibroscopies et on a gagné considérablement en matière diagnostique et thérapeutique, économique en même temps.
Mais vous me disiez que quand même, pour voir la différence entre un cancer du poumon et une tuberculose, il y avait une question que vous posiez quand même, toujours.
Oui, alors là, mais il n'y a pas qu'au Cambodge, hein. C'est partout.
En France aussi.
Quand un sujet a craché du sang, nous on a tout de suite maintenant les scanners, les machins, les IRM et tout, ou la fibroscopie et autres, mais la première question qu'on va poser à la personne, c'est « fumez-vous ?» Si les sujets ont fumé une certaine quantité dans un certain temps de tabac, eh bien, on se rapproche plus volontiers du diagnostic de cancer et on fera tout pour aller chercher d'abord le cancer avant la tuberculose. Ouais. Puis tuberculose qui n'existe plus beaucoup en France. Enfin, elle existe toujours.
Hein, ah oui, en France quand même.
Oui, 5% 1000 environ. Donc, vous voyez, c'est quand même des chiffres. Ça augmente avec l'immigration actuellement non contrôlée au plan médical.
Et vous me disiez qu'en plus, souvent, le tabac a été frelaté.
Eh bien oui, manifestement, les pays producteurs de tabac se gardent ou vendent en Europe, comme chez nous par exemple, en France et tout, se gardent les bons tabacs, bien organisés, bien arrangés, mais tous les restes, ils sont déversés, y compris dans tous les pays d'Asie, puisque même en Chine, il y a des tabacs frelatés qu'on retrouve là-bas. Qui sont probablement, même sûrement, beaucoup plus cancérigènes que le tabac. Qui est toujours très cancérigène chez nous, mais qui l'est peut-être moins quand même.
Ouais. J'imagine que vous n'avez jamais fumé.
Eh bien si, j'ai fumé. Ben, justement, mon maître chrétien est celui qui m'a arrêté de fumer, si on peut dire. C'est un pari que j'ai pris avec ma mère, mais j'étais tous les jours avec mon maître chrétien. « Oh François, il faut arrêter de fumer, tu fais de la pneumologie. » Et j'étais responsable du secteur cancéro de l'hôpital de Créteil. Alors j'ai décidé, j'ai réussi du jour au lendemain à arrêter. C'était en 72, vous voyez que ça fait quand même quelques
bravo,
années.
Bravo. Alors j'en reviens à votre rôle de professeur, parce que c'est ce que vous avez été durant toutes ces années où vous avez fait ces voyages à Phnom Penh. Alors, vous me disiez qu'il y avait d'abord l'enseignement au lit du malade.
Alors, bon, je vais reprendre un tout petit peu l'enseignement. Oui. L'enseignement, quand on est arrivé, il n'y avait rien. Donc, il fallait commencer par enseigner les médecins eux-mêmes, ceux qui étaient formés, qui étaient responsables. Ce qu'on a appelé la formation des formateurs. C'était dans un état mais inimaginable. La connaissance était égale à zéro.
Mais alors, ils avaient quand même passé des examens.
Ah oui, mais attendez, entre 75 et 79, d'abord, il n'y avait rien, personne. Et ensuite, c'est tout doucement, qu'il y a eu du nouvel enseignement et tout. Il s'est fait beaucoup, d'ailleurs, en URSS à l'époque, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et surtout, l'enseignement qui était du local, et à ce moment-là, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que les enseignants khmer enseignaient le peu qu'ils savaient, mais ils ne savaient rien. Alors donc,
ils n'avaient rien.
Non, il n'y avait aucune connaissance. Aucune connaissance. Donc, on est reparti à zéro. Avec des gens qui avaient une soif d'apprendre extraordinaire.
Mais qui avaient quand même une base médicale ?
Non. Ah, allez, non. À peine.
Première année de médecine, non ?
Oui, tout à fait. Mais c'était
sans numerus clausus.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, même l'enseignement à l'université, il n'y avait pas de numerus clausus. Et il y avait quand même 300, 400, 500 élèves dans un petit amphithéâtre pour essayer d'apprendre quelques vagues notions de pneumologie. Ah, oui. Et puis, on sait ce qui s'est dit. Nous, on connaît bien parce que nos amis nous ont dit ce qui était enseigné à l'époque. Oui. Alors, avec l'apparition du numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves maximum 100 à 150. D'abord, on a limité le nombre d'installations de médecins de manière sauvage dans tout le Cambodge.
Ah oui, parce que les...
Ils récupéraient les finances, hein, bien sûr. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est qu'il y a l'enseignement dans des conditions qui étaient tout à fait correctes. Hein, nous, on a fait beaucoup d'enseignement, d'abord les Français, c'est vrai, mais très rapidement, on a mis le pied à l'étrier à nos collègues Khmer. Mmh. Alors, avec une particularité, c'est que l'enseignement se fait en français et en khmer. Alors, il y avait souvent un traducteur, mais si on parlait bien et lentement, et c'était une formation particulière pour nous, hein, de faire l'enseignement. Ah, oui. Faites attention. Et d'ailleurs, il y a des profs de français qui venaient nous écouter pour nous dire après, nous, on vous conseille de faire comme ça, ça c'est trop rapide, ça faudra pas insister là-dessus pour d'autres.
Oui.
Et donc, on apprenait à parler français auprès de nos élèves.
Et eux-mêmes n'essayaient pas d'apprendre le français.
Si, il y avait des cours de français par les Khmer eux-mêmes. Et d'ailleurs, Cheng, dont on parlera peut-être, qui est mon élève pneumopédiatre, était un enseignant de français pour ses collègues Khmer.
Ah oui. Donc, vous avez été les bienfaiteurs en arrivant. On a dû vraiment...
Oui. On a rendu service.
Ah oui.
Oui, c'est sûr.
C'est merveilleux.
Alors, pour ajouter justement cet enseignement, des formateurs et des universitaires, il y a un autre que vous avez abordé tout à l'heure, ce qu'on appelle le compagnonnage.
Oui.
Le compagnonnage, c'est un petit peu la formation post-universitaire, j'allais dire. Hein, c'est la formation continue.
Ah oui.
Et ce compagnonnage est majeur, c'est-à-dire que il faut accompagner en visite, in vivo, là on est sur place, on est vraiment au pied du malade et tout, avec le médecin khmer, on le fait faire l'examen et nous derrière on corrige,
ah oui.
On fait l'examen avec eux, on dit c'est sûrement...
C'est ce qu'on appelle l'enseignement au lit du malade.
Voilà. Et c'est probablement l'enseignement les plus efficaces dans ces pays pour des gens qui manœuvrent tout seuls, enfin, sont tout seuls à exercer ce qu'ils ont appris à la faculté.
C'est ça, ça doit être très difficile pour eux quand même.
Bien sûr.
Vraiment.
Nous, on a l'avantage d'avoir nos enseignants, nos chefs de clinique, nos internes, quand on commence médecine et tout, on est tout le temps entourés.
Oui.
Mais eux, ils n'étaient pas entourés.
Eh bien, professeur Lebas, un très grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel et aussi nous écouter dans un mois parce que nous pourrons encore écouter le professeur Lebas. Merci à vous et je dirai à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.